you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump on the
Vous êtes au cœur de la nuit 8FM. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Bonjour à tous, avez-vous déjà remarqué la bonne humeur? Le sourire est communicatif et il n'y a qu'à rencontrer Catherine Godard pour confirmer ce que je dis. L'Orléanaise est sourirologue, un métier inventé de toutes pièces mais qui veut dire beaucoup de choses. Préparatrice mentale et coach en développement personnel, elle aide ses clients à développer leur leadership. Elle a développé plusieurs méthodes pour les aider, faisant appel notamment au neurofeedback, un procédé issu des neurosciences qui permet à tout un chacun d'apprendre à contrôler son cerveau et à le calmer en cas de stress ou de surmenage. On vous en dit plus tout de suite avec Catherine Godard. Catherine Godard, bonjour.
Bonjour Alicia.
Vous êtes sourirologue. Peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. En quelques mots déjà, quel est votre métier?
À votre avis, sourirologue, ça vous inspire quoi?
Déjà, il y a le mot sourire.
Ouais, c'est bon.
C'est bon signe, on est dans le bon, dans le bon sens.
Et justement, un sourire, ça vous inspire quoi?
La joie, la bonne humeur.
C'est un petit peu ça le principe. Moi, je muscle l'audace chez mes clients.
Alors déjà, qui sont vos clients?
Mes clients, ça va être, je vais plutôt aller travailler en entreprise pour développer un leadership positif et contagieux. Donc cette audace, en fait, c'est la possibilité d'être dans la créativité parce que j'ai lâché plein de trucs. Et en fait, quand je parle de leadership positif et contagieux, c'est quand on est porteur de sens. On a plutôt intérêt à être inspirant. Et pour être inspirant, développer du leadership, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand je parle d'audace, ça peut être avoir l'audace de nos ambitions, avoir l'audace de nos rêves, mais ça peut être aussi avoir l'audace de croire en l'intelligence collective. Mmh. Ça peut être aussi avoir l'audace d'exprimer ses sentiments, parce que ça, c'est pas simple à faire. Avoir l'audace d'afficher, d'exprimer sa singularité, ce que je fais un petit peu en inventant le métier, parce que ça vient d'une espèce de drôle d'idée que j'ai eue. Je me suis dit que, en fait, j'ai lu une statistique qui dit qu'en 2030, il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais avoir l'audace de faire un job qui me colle à la peau.
Donc à la base, Catherine, vous êtes coach en développement personnel, c'est ça?
Ouais, je suis préparateur mental et coach de transition. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'accompagner mon client dans le changement, dans peut-être mieux se connaître, pour mieux être en relation avec les autres.
Donc essentiellement des chefs d'entreprise, des managers, c'est ça?
Ouais, en entreprise et puis en individuel. En fait, les gens viennent aujourd'hui plutôt me voir en individuel, mais j'ai l'espoir demain que certains chefs d'entreprise soient assez audacieux pour se dire que une sourirologue en entreprise, c'est une évidence.
Alors si on devait, même si c'est difficile, parce qu'évidemment il y a difficile d'expliquer en quelques mots, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a un coaching qui est réalisé sur une durée plus qu'une durée d'une interview. Mais alors très concrètement, comment est-ce qu'on coach justement? Quels vont être les exercices qu'une sourirologue peut donner?
C'est une méthode en quatre étapes. Première étape, on va observer et calmer le mental. Deuxième étape, on va comprendre et compléter une boîte à outils personnelle. Troisième étape, on va expérimenter et mettre en place les bons gestes. Et quatrième étape, en fait, c'est le sourire. Ma méthode s'appelle 1, 2, 3, sourire. Et le sourire, en fait, derrière le verbe d'action, c'est transmettre. Mmh. C'est célébrer les réussites. Et là, tu deviens contagieux, en fait.
D'accord. Donc, en gros, faire du positif pour attirer le positif.
Voilà. Si on détaille un petit peu, l'étape 1, observer, calmer le mental, c'est j'utilise des outils de préparation mentale. Ce que j'utilise, et c'est ma petite baguette magique secrète, c'est un outil qui s'appelle du neurofeedback dynamique. C'est une méditation assistée par ordinateur. Imagine ton cerveau quand il est envahi par un tas d'idées. Imagine que ton cerveau, c'est une boule de neige. Tu vois, quand il neige, on voit pas le paysage. Et pour prendre des décisions, des fois, c'est un peu compliqué. Donc en fait, quand je dis observer et calmer le mental, c'est offrir à mon cerveau un temps pour que la neige se pose. Parce que quand t'es agité, tu peux pas apprendre quelque chose de nouveau. Mmh. Donc en 1, observer, calmer le mental. En 2, c'est là où en fait je vais utiliser les outils de psychologie, psychopédagogie positive. Donc c'est observer ce qui se passe, comprendre dans mes gestes ce qui convient et ce qui ne convient pas, donc apprendre de mon fonctionnement. Et après, moi, je viens avec mes outils pour proposer, ouvrir le champ des possibles. Donc, ça peut être des outils qui vont être des outils très simples. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Dixit, mais ça va être un jeu qui va... C'est des belles images, et dans ces images-là, on va aller chercher de la créativité. Dans notre quotidien, quand on est face à nos problématiques, on n'arrive pas à prendre du recul. Aller travailler sur sa créativité permet de temps en temps de se dire « Ah ouais, il y a peut-être autre chose qui existe ». Donc ça, en fait, c'est comprendre et compléter sa boîte à outils. Mais savoir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc expérimenter, un coaching, c'est pas en un rendez-vous que ça marche. Un accompagnement de coaching, c'est souvent sur 6 mois ou sur 1 an.
Et on est d'accord qu'on peut pas le faire tout seul.
Difficile. En fait, l'intérêt d'un coaching, c'est que tu gagnes du temps. Quand quelqu'un te forme, il a probablement passé 15 ans à expérimenter les choses et te donne son savoir pour que tu ailles plus vite. Donc, tu peux très bien acheter beaucoup de livres comme moi, te confronter à beaucoup de problèmes comme moi, et puis petit à petit te faire ta propre boîte à outils. Ou te faire accompagner par quelqu'un qui te permet de gagner du temps. Et aussi de t'encourager au fur et à mesure. Parce que des fois, on baisse un petit peu les bras.
Au début de l'interview, on parlait d'intervention auprès de chefs d'entreprise, ou plutôt des chefs d'entreprise ou des managers. Mm-hmm. Mais finalement, c'est une méthode 1, 2, 3 sourires qui s'adresse à tout le monde.
Mais exactement. Donc dans ma tête, Alicia, j'ai quand même des projets pour distribuer, pour transmettre au plus grand nombre. Et je me dis que peut-être écrire un livre et une méthode, ça serait une idée. Peut-être en 2023, peut-être en 2024.
Donc c'est en projet.
En projet.
Pour les prochains mois, il y a la volonté de rouvrir les rendez-vous, c'est ça? Parce qu'ils avaient été mis en stand-by?
Ouais, il y a eu un petit stand-by parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que la vie a voulu tester la sourirologue pour voir si ce qu'elle dit...
Elle pouvait se
l'appliquer. Elle le met en place.
Voilà.
Exactement. Donc en 2022, en fait, en avril 2022, on m'a annoncé un double cancer du sein. Et sur les 10 mois qui viennent de passer, j'ai eu un gros rendez-vous avec moi-même. Ça a été très instructif. J'ai fait du feedback permanent. J'ai raconté ce chemin. En fait, c'est devenu un des outils de ma méthode qui s'appelle le voyage du héros. Et du coup, j'ai raconté tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera le premier livre que je vais écrire sur le premier trimestre. Donc, ce sera le voyage du héros à Lololand. Et puis sur le semestre d'après, probablement que je travaillerai sur une méthodo pour partager. Un peu de sourire au plus grand nombre.
Merci beaucoup Catherine Godard, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Ouais, tu sais pourquoi le sourire? Parce qu'en fait le sourire, tout le long de mon accompagnement, le sourire c'est la boussole. Et c'est aussi la source de ton énergie. Et c'est pour ça qu'on va être très très attentif, tout au long du parcours d'accompagnement, à garder l'esprit joyeux. ce qui force la créativité.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et pour certains, c'est même devenu leur métier. À l'image de l'Orléanaise Clément Salaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd'hui près de 120 000 abonnés sur Instagram. Bien loin du business juteux et très souvent indigeste développé par les stars de télé-réalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec les marques à la renommée parfois mondiale. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenu pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi et quel est leur intérêt et comment cela fonctionne-t-il ? Clément Salaire a accepté de répondre à nos questions. Rencontre.
Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis orléanaise et je suis maman d'un petit garçon. J'ai lancé tout d'abord un blog, quand c'était la folie des blogs en 2010, donc ça fait un petit moment déjà. J'étais au lycée, j'adorais écrire, ma matière préférée c'était le français et j'adorais la mode, j'adorais la beauté et je me suis dit il faut que je trouve une plateforme pour écrire ce qui me fait kiffer quoi. Et du coup j'ai lancé mon blog et à partir de là je pouvais m'exprimer, je pouvais parler mode, beauté, lifestyle, etc. Et je me suis dit pour attraper les gens, j'ai décidé d'interviewer des célébrités. J'ai pas de formation de journaliste à ce moment-là, je ne suis personne, etc. Mais le format blog intéresse vachement les gens et donc on me dit oui. Donc j'ai fait des super interviews, Lou Doyon au Théâtre d'Orléans, incroyable,
okay.
vraie interview de grande. David Beckham, alors là c'était waouh,
ah ouais.
Ouais, c'était vraiment cool et des personnalités de la mode, etc. Et ensuite Instagram est arrivé et à partir de là, bah ma communauté du blog m'a suivi sur Insta et c'est grâce à ça que j'ai pu du coup construire une communauté et grandir via ce réseau social.
C'était le blog fonctionnait déjà bien avant ?
Ouais, super bien. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient hyper curieux, attendaient mes articles, c'était vraiment sympa. Et toute la folie Facebook, Twitter et surtout Instagram a complètement changé la donne et aussi pour énormément de médias, comme je pense à la presse, etc. Les réseaux sociaux ont pris une grosse place et on a vite compris que c'était un vrai moyen de communication à travers des photos, etc. Donc voilà, ça a commencé à suffire aux gens en fait, ce type de format. Donc il faut évoluer aussi avec son temps, même si la passion d'écrire était encore là. Et voilà.
Pour comprendre le fonctionnement d'Instagram aujourd'hui, comment justement fonctionne ton travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et surtout, comment ça marche ?
Instagram, donc déjà on est sur un réseau social, tout le monde a accès à Instagram, mais on peut vivre de cette plateforme. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en lumière des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, des expériences hôtelières via mes propres photos. Donc voilà, il y a un vrai travail du coup de création, c'est ça, voilà. Prendre des photos, bah ça prend aussi. On prend pas des photos n'importe comment, donc on s'équipe. Il y a un vrai travail même avec la lumière, etc. Vraiment, le but c'est de rendre l'objet encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc il y a pas mal de boulot derrière. Il y a un vrai travail en amont avec les marques. Donc on reçoit des briefs, ils nous disent voilà ce qu'ils veulent exactement, et nous on doit reproduire le truc de manière parfaite en fait. Et c'est très challengeant au quotidien.
C'est un fonctionnement d'agence de communication.
Clairement. J'ai un brief, la marque me contacte, j'ai un brief à respecter avec des deadlines. Donc voilà, je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo, parce que maintenant il y a le format vidéo qui marche énormément bien, avant telle date. Et faut que tout soit nickel pour que je puisse poster.
Comment ça se passe justement le lien avec les marques ? Est-ce qu'elles te contactent ? Tu les contactes ? Comment ça fonctionne ?
Alors, il y a certains créateurs de contenu qui vont aller au culot contacter des marques parce que bah, ils ont envie de travailler avec telle marque. Ils se disent, bah, moi j'ai un super compte Instagram, donc why not ? Et il y a les personnes, moi je suis plus partie de ces personnes-là, qui attendent que les marques viennent. Parce que j'ai toujours peur, enfin j'ai pas envie de déranger ou quoi, et du coup je préfère qu'on vienne vers moi parce que voilà, la marque estime que je corresponds à ce qu'elle veut. Et elles viennent vers moi, voilà, en me disant, voilà, on aime bien ton profil, on aime bien ton univers, voilà ce qu'on sort comme produit et on pense que ça correspond complètement à ce que tu es. Et du coup, après, bah, je regarde, j'accepte ou pas, parce que des fois, on dit non parce que ça ne nous correspond pas forcément. Il faut savoir dire non parce qu'après, on est très, très vite sous l'eau. Et voilà.
C'est justement, ça, pour qu'on se rende compte, ça peut être combien de propositions par jour ou par semaine ou par mois, je sais pas.
Alors c'est complètement différent tous les jours.
Mes journées, hors Noël, parce que j'imagine Noël c'est la folie.
Hors Black Friday, hors Noël, tous ces trucs-là, ouais. Clairement, en moyenne, je dirais, on peut aller jusqu'à 2 propositions par jour.
Ah ouais, d'accord, ok. Toutes sérieuses.
Bah, il y en a qui sont moins sérieuses, hein. Il y a des marques, c'est clairement du dropshipping et ça, on n'y va pas du tout parce que, bah, ça peut être même dangereux pour le consommateur et puis même pour son image, c'est vraiment pas bon. Mais, oui, clairement, aujourd'hui, les marques ont très très bien compris ce business qui est juste incroyable et préfèrent limite faire de l'influence que faire de la télé.
Est-ce que aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, ça marche encore plus,
oui.
Ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ralentissement? Parce que là, ça fait quelques années maintenant qu'on parle du métier de l'influence. Est-ce que vous êtes toujours autant happé par les marques, les choses comme ça?
Moi, je trouve que oui.
Ouais, okay.
Ouais, franchement, je trouve que oui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, les marques, elles se disent que Instagram, c'est une mine d'or pour elles parce qu'on va toucher le cœur de cible tout de suite, en fait. Voilà, une marque de sport va tout de suite aller vers un influenceur sportif et va tout de suite trouver la personne qui va parler de ses produits. Donc c'est tout bénef, clairement. Après, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent, enfin, qui sont déjà là, bien implantés, comme TikTok. Et là, il y a une grosse, grosse comparaison avec Insta. Mais on est sur autre chose, on est sur une autre génération. Donc pareil, il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail sur la partie Insta.
Sans chiffrer, est-ce que tu sais si c'est moins cher, entre guillemets, de faire appel à des influenceurs que de faire appel à une grande chaîne de télé, par exemple, pour faire de la pub?
Ouais. Okay. Alors, moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence avant d'être 100% sur Insta. Du coup, j'ai pu assister au backstage de tout ça, de voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en dessous d'un spot publicitaire.
D'accord.
C'est après, voilà, il y a des influenceurs qui sont très, très, très puissants, où ça chiffre forcément beaucoup, parce que forcément, ils font extrêmement vendre. Donc là, forcément, on peut être un peu choqué par rapport au prix. Et voilà, mais le prix d'une pub juste avant le 20h, c'est beaucoup plus cher.
Quel est le point négatif dans ce travail? L'exposition sur les réseaux?
Bah oui, il y a le côté surexposition de sa vie. Après, clairement, il faut le dire, je montre 5% de ma vie. Enfin, voilà. Entre Instagram, c'est pas la vraie vie, et je suis trop contente de pouvoir le dire à la radio. Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut faire déculpabiliser les gens qui se comparent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pas la vraie vie du tout. Et les points négatifs, c'est ça. C'est quand on fait ce travail, ben on va avoir toujours cette pression de l'image. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que mes photos vont être mieux que celles de ma copine qui est sur Insta aussi? Oh, elle, ça marche peut-être un peu mieux. En fait, on est toujours dans la comparaison et ça peut faire mal, mais après, voilà, faut être bien entouré et se raisonner. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon agent, j'ai des gens qui me disent tout le temps, bah, arrête un peu, des fois, tu te montes la tête pour rien. Et voilà, et après, autre point négatif dans ce métier, c'est que bah, le métier d'influenceur, entre guillemets, c'est perçu comme quelque chose de facile, c'est pas forcément pris au sérieux, mais franchement, derrière cette image, il y a tellement de boulot, il y a tellement de pression aussi qu'on s'inflige nous. Donc, voilà.
S'il y avait un conseil, c'est pas un conseil, mais si en gros, si tu devais faire passer un message par rapport à tout ça, ce serait lequel?
Je l'ai dit juste avant, je crois, mais Instagram n'est pas la vraie vie, vraiment. N'importe quel réseau sociaux d'ailleurs, ce que vous voyez, voilà, c'est une toute petite partie de la vie des gens et c'est surtout ce que les gens veulent montrer. Et après, vous pouvez bien sûr suivre des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie aussi de réaliser des choses, de voyager, de faire plein de choses. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être dévastateur, clairement. Moi, je l'ai vu en travaillant dans le marketing d'influence. Je prenais des stagiaires de 3e. S'il n'y avait pas plus de 200 likes sous la photo, j'étais une mauvaise personne et ça m'a brisé le cœur. Je me dis mais on en est là quoi. Donc c'est trop cool les réseaux, ça nous permet voilà de rêver un peu, de s'échapper, de rire parfois parce qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, d'apprendre aussi plein de choses. Il y a des gens qui sont trop bien calés, il y a des infographies trop cool sur les réseaux sociaux et tout, mais ne pas se monter la tête non plus et voilà. Tout simplement.
Une dernière question à destination peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire quoi plus tard, ils veulent devenir influenceurs. Est-ce que c'est... Moi, c'est un sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression que toutes celles qui ont explosé justement dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, elles c'était pas volontaire au départ.
Ouais.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement décider plus tard, je serai influenceur?
Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je pense que si quelqu'un a envie de faire ce métier, bah, il peut se donner les moyens à fond. Mais je peux pas dire à 100% qu'il va réussir. En fait, je pense que c'est, il y a aussi une part de chance aussi, je pense aussi, parce que il suffit de poster une vidéo et d'un seul coup d'avoir le lendemain matin 1 million de vues et là, waouh! Tout commence. Enfin, il y a des études, il y a des formations maintenant pour essayer de faire au mieux, d'avoir un beau feed Insta, de pouvoir faire plein de trucs trop cool. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Et voilà, il y a une partie de chance quand même, faut le dire. Voilà. Après, si la personne a vraiment envie de le faire, elle peut se donner les moyens, faire de jolies rencontres, faire des stages aussi dans le marketing d'influence, rencontrer des gens. Mais voilà, c'est quand même très fermé, mine de rien.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. With you, come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
Come take it to the flow now. Fennec, shoot.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Le gros plan de la rédac. Mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre. Épisode 3.
Repenser nos déplacements, quelles alternatives et à quel prix? On évoque certainement ici l'un des points les plus importants de notre transition énergétique dans le domaine des transports. Au-delà des avancées technologiques qui permettent, et on le verra dans un prochain épisode, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doit-on plus globalement remettre en question nos déplacements? Doit-on revoir notre rapport à l'utilisation de notre véhicule? La question est centrale car elle implique un changement dans notre mode de consommation, voire notre mode de vie, dont l'impact sur le climat est non négligeable. On l'a déjà compris dans cette série sur les nouvelles mobilités, se tourner aujourd'hui vers un véhicule électrique restera, quoi qu'il arrive, une alternative moins polluante que son équivalent thermique. Tout d'abord parce que les batteries sont à ce jour mieux conçues. Et surtout, la question du recyclage n'est plus réellement un sujet, comme il pouvait l'être il y a encore quelques années. De nombreuses entreprises du secteur y travaillent, et on sait aujourd'hui, par exemple, réparer des batteries en fin de vie, ou encore tout simplement les réutiliser dans un domaine tout autre que le déplacement. L'autre point désormais convenu, c'est que les véhicules thermiques sont un désastre environnemental et que malheureusement, le véhicule électrique n'est pas une solution parfaitement merveilleuse pour décarboner nos déplacements. Quoi qu'il arrive, notre modèle de transport est extrêmement polluant, mais est-ce une raison pour baisser les bras et finalement se dire « je vais polluer, dans tous les cas, pourquoi m'embêter ?» Cette finalité est tout à fait compréhensible, d'autant que les alternatives existantes aujourd'hui peuvent faire un petit peu peur d'un point de vue économique. Malgré tout, il existe une multitude de solutions toutes complémentaires. La seule chose, c'est qu'elles impliquent effectivement toutes de changer notre mode de consommation actuel. C'est ce qu'explique Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique.
Non, très clairement, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être une transformation assez globale qu'il faut mener. La première manière de voir la transition énergétique des transports, c'est de se dire il faut qu'on change d'énergie, il faut qu'on sorte du pétrole pour passer à d'autres énergies. On a plusieurs options qui sont des options complémentaires. Aucune d'entre elles n'est parfaite. Elles ont toutes des impacts, des freins aussi à leur mise en œuvre. Les quatre grands types d'options qu'on a d'un point de vue énergétique, c'est tout d'abord l'électrique, dont on parle beaucoup, notamment pour la voiture, c'est ce qui va être le plus pertinent. On a aussi l'hydrogène, qui va être un complément à l'électrique. Il a certains défauts par rapport à l'électrique, notamment un coût plus important, notamment plus de besoins énergétiques pour réussir à produire l'hydrogène. Après, on a ensuite, en troisième option, on a également les biocarburants. Donc ça permet de garder le même type de véhicule qu'aujourd'hui au pétrole, mais de passer à des carburants produits à partir de biomasse, donc à partir de cultures, etc., ou à partir de résidus de cultures, tout ça. Et puis, il y a aussi le biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse. Donc là, ça demande de changer les moteurs. C'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, donc qu'on peut obtenir à partir de plantes ou de résidus de plantes, par exemple.
De nombreuses solutions pour décarboner le plus possible nos déplacements existent donc déjà et sont même pour la plupart déjà largement exploitées. La plus connue à ce jour est évidemment l'alternative du véhicule électrique. Elle devrait même s'imposer dans les années à venir puisque l'Union européenne a voté l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Et surtout parce qu'elle permet, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire ou penser, de faire des économies. La preuve avec Vincent Larnicole de la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Lui possède une Peugeot Yon, une petite citadine électrique qu'il utilise quotidiennement, mais aussi un véhicule thermique pour des déplacements plus longs.
Maillon, ça me coûte quasiment rien, il n'y a pas d'entretien. L'électricité, même si ça augmente, ça coûte encore beaucoup moins cher que le pétrole. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé à l'électrique. On a une voiture qu'on utilise au quotidien. Moi, ma petite citadine, c'est avec elle que je fais le plus de kilomètres. Parce que je suis plus souvent chez moi au boulot qu'en vacances. Donc effectivement, quand je suis en vacances, je vais utiliser ma thermique. Mais finalement, je fais moins de kilomètres avec ma thermique qu'avec ma petite électrique qui a un rayon d'action très limité. Et en termes d'économie, oui, c'est 2000 euros à peu près d'économie par an, quoi.
Christophe Debaune fait aussi partie de la fauve. Lui a décidé de se tourner vers un véhicule électrique plus gros et plus lourd. Mais le constat est le même. Le véhicule électrique est rentable économiquement et permet de faire des trajets qu'on pourrait penser impossibles.
je me suis rabattu sur une berline de taille correcte, on va dire. Donc forcément, quand on part en vacances, elle est un peu plus remplie. Mais en tout cas, le constat est là, c'est qu'elle me permet aujourd'hui de voyager comme je voyageais avant avec la thermique. Je traverse la France, je vais même un peu plus loin. Je suis même allé jusqu'en Allemagne de l'Est, avec sa mienne de l'Est, avec sur un week-end. Pourtant, on m'a dit non, tu vas mettre une semaine, etc., à faire le voyage rien que pour y aller. Bah non, en un week-end, j'ai fait l'aller et le retour. Donc voilà, je me pose plus la question. Il faut partir, il faut aller à droite, à gauche, peu importe. Je prends ma voiture et je voyage comme avant finalement. Exception que on essaie de caler les pauses repas, etc., sur un endroit où il y a une borne de recharge rapide. Mais ça va être de moins en moins vrai, puisqu'en fait la plupart des stations d'autoroute se sont équipées, donc en fait dès qu'on s'arrêtera, quel que soit l'endroit, il y aura une borne de recharge. Donc effectivement aujourd'hui on s'arrête le temps de manger, ou même d'une pause technique simplement, on récupère 100-150 km, le temps de manger, on fait le plein complet. C'est régulier que je dis à ma femme et mes enfants, dépêchez-vous, la voiture est pleine, donc il faut y aller.
Un tel voyage en véhicule électrique est donc par la force des choses plus long et nécessite aussi des pauses très régulières.
Oui effectivement, donc là c'est un cas concret. Il y avait 1150 km aller, 1150 km retour. C'est entre 5 et 6 pauses sur chacun des trajets. En fait, ça va assez vite parce que, alors, la sécurité routière, vu qu'on s'arrête toutes les 2 heures, et ben effectivement, quand on s'arrête toutes les 2 heures, voire un petit peu moins, on se rend compte que le voyage est beaucoup plus agréable parce que moins fatigant. Pourtant, c'est vrai que je me forçais avant à pousser, et en fait non, c'est pas possible, et on se rend compte qu'on retrouve du plaisir à voyager comme ça. Niveau budget, sur une longue distance comme ça, faut compter à peu près 250 euros l'aller-retour, donc les 2300 km. Alors c'est un budget qui se rapproche du thermique pour ce cas-là. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les jours je recharge chez moi en fait à moins de 2 euros au 100 km. Donc c'est aussi à prendre en compte dans le calcul. On lit beaucoup d'articles où l'électrique va devenir aussi cher que le thermique, mais on oublie en fait que la plupart des gens qui roulent en électrique recherchent chez eux à un tarif très intéressant.
La solution du véhicule électrique, même sur des trajets longs, semble donc plutôt viable, que ce soit quand on parle des conditions de conduite, de voyage et même d'un point de vue économique. Rentabilité que vient confirmer Aurélien Bigot, mais qu'il tient à nuancer, notamment sur le prix à l'achat du véhicule électrique.
Il y a besoin de soutien de l'État, il y a besoin de soutien des collectivités, que ce soit pour les bornes de recharge, pour faciliter via des aides à l'achat la conversion aussi du parc de véhicules vers des véhicules à la fois électriques et des véhicules plus sobres aussi, c'est une autre partie de la transition. Après, ce qu'il faut savoir sur le coût par exemple des véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui ils sont plus chers à l'achat, donc ça peut être un vrai défi de transition, et du coup c'est difficile pour une grande partie des ménages pour s'approvisionner sur le marché des véhicules neufs. Mais en plus, l'électrique est plus cher à l'achat, mais après il est beaucoup moins cher à l'usage. Donc dès aujourd'hui, acheter un véhicule électrique, ça nous assure sur l'ensemble de son cycle de vie. Un véhicule électrique d'une tonne aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 20 000 euros à l'achat. Un véhicule électrique de 2 tonnes, ça va être de l'ordre de 50 000 euros.
Des véhicules rentables donc, mais dont le prix à l'achat peut en freiner plus d'un.
Oui, c'est clairement un investissement. Après, la grande question dans la transition, c'est aussi une question de réorienter les flux financiers ou les financements. Quelque part, de moins financer les infrastructures qui soutiennent des usages de la voiture, des usages du pétrole, etc. Et puis réorienter ces flux-là vers plutôt le vélo, les transports en commun, la mobilité électrique, le covoiturage, etc. Donc c'est aussi des flux à réorienter vers ce qui est le plus vertueux, en sachant qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de financement public, par exemple pour construire des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, agrandir des aéroports, etc. Les financements qu'il y a pu avoir, les primes sur les carburants, etc. Mais ces choses-là, il faut soit les cibler vers les personnes qui ont le moins de moyens pour qu'elles puissent passer cette période de forte hausse du coût des carburants, c'est problématique de pouvoir d'achat, mais essayer de ne pas trop rendre dépendant finalement à la voiture thermique, etc., mais plutôt financer les alternatives pour faire en sorte qu'on fasse cette transition, plutôt que subventionner des usages actuels qui ne sont pas forcément très favorables pour la transition. Donc c'est un gros enjeu aussi de réussir à réorienter ces flux financiers.
Parmi les les véhicules intéressants et abordables, on évoque souvent la Dacia Spring, véhicule pour lequel le cumul des aides gouvernementales peut aller jusqu'à 20 000 euros et qui offre une autonomie assez conséquente, même quand on vit dans des zones rurales où les bornes de recharge peuvent se faire plus rares, d'autant que le réseau est plutôt bien fourni en France, selon Christophe Debaune.
Il existe des outils qui permettent de voir où se situent les bornes, et bien souvent, on est surpris de se dire « ouais, je vais rien trouver là-bas ». Et ben en fait, s'il y a des bornes, faut simplement savoir les trouver. Donc, je sais pas s'il y a un coin en France qui est plus difficile qu'un autre. En tout cas, quand on s'éloigne un peu dans la campagne, entre guillemets, bah souvent on habite en maison individuelle, donc on a le point de recharge chez soi. Et aujourd'hui, quand on a un véhicule qui peut faire, on parle de la Dacia Spring pour revenir à elle, qui est un véhicule abordable, on peut faire entre 200-250 km. Donc quand on a un rayon d'action de 200-250 km, peu de gens font cette distance-là tous les jours. Même si c'est un aller-retour, bah on revient chez soi le soir et puis on la rebranche et puis le lendemain matin, elle est prête à repartir.
Mais à l'image de la Dacia Spring, peut-on vraiment continuer de concevoir nos déplacements grâce à des véhicules aussi lourds et dont l'autonomie est aussi conséquente? La question peut sembler bête. Aujourd'hui, on aime l'idée d'avoir un véhicule qui peut nous emmener loin et vite, même si la majorité de nos trajets sont des déplacements du quotidien et qui ne nécessitent donc pas des véhicules objectivement surdimensionnés. C'est d'ailleurs ce que dit Aurélien Bigot.
En fait, on ne peut pas penser exactement comme ça, penser voiture vraiment à tout faire, y compris des très longs trajets, mais plutôt, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des véhicules sobres, plus légers, qui ont pas trop d'autonomie au quotidien, et pour les trajets à plus longue distance, et bien en tant que possible, développer d'autres mobilités que la voiture, aussi typiquement développer davantage le train, développer davantage l'autocar, ou bien davantage covoiturer, ou avoir de l'autopartage, de la location de véhicules pour les quelques trajets à plus longue distance qu'on peut avoir dans l'année, afin de dimensionner plutôt des véhicules petits, légers, qui n'ont pas trop grosses batteries, ce qui limitera à la fois les impacts environnementaux, mais aussi le coût financier de ces véhicules électriques. Si on veut que beaucoup plus de personnes aient accès aux véhicules électriques, il faut que ce soit des véhicules plutôt plus légers, avec une batterie pas trop surdimensionnée.
Pour ce qui est du développement des réseaux de transport en commun, et notamment du train, encore faut-il permettre à quiconque de se rendre en gare ou de rejoindre un lieu depuis une gare. C'est pour ce type d'usage que Frédéric Morier veut développer son projet Avatar Mobilité. L'idée est de proposer des alternatives sobres en ayant recours à des batteries moins impactantes sur l'environnement.
Notre point de vue avec Avatar, c'est que finalement il est beaucoup plus simple et plus souple de développer des petits modules, des petites cellules qui ont un impact, une consommation équivalente ou moindre qu'un transport en commun, et que finalement en multipliant des petits véhicules comme les nôtres, à passagers équivalents et à kilomètres parcourus équivalents, si on est déjà mieux placé en termes de coûts et d'impact que ces bus à hydrogène ou équivalents, c'est pertinent. Mais l'idée n'est pas d'opposer les solutions, bien au contraire. C'est de dire, quand on veut se rendre dans une gare, ou qu'elle soit ferroviaire ou routière, eh bien comment on y va? Est-ce qu'on a des solutions de déplacement sobres, elles aussi? Et donc de proposer, par exemple, des véhicules qui permettent de faire les 10 derniers kilomètres ou les 10 premiers kilomètres pour rejoindre des transports en commun.
Les projets et les propositions ne manquent donc pas entre les véhicules électriques classiques et les projets alternatifs, comme le projet Avatar. Mais les gens sont-ils prêts à faire l'effort financier pour cette transition énergétique? Aurélien Bigot estime que oui, même si quelques efforts sont encore nécessaires.
Les gens sont prêts à faire des efforts à condition qu'ils soient partagés de manière juste, à condition d'avoir aussi des alternatives à disposition. Et c'est vrai que notamment dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, aujourd'hui il y a trop peu d'alternatives qui sont mises à disposition. Et c'est aussi ça le gros enjeu de transition, c'est de faire en sorte de choisir quelles sont les bonnes solutions de mobilité selon les territoires, selon les personnes, selon les capacités que chacun peut avoir. Pour ces zones-là qui ont été trop peu soutenues dans les politiques publiques de mobilité, mais aussi proposer des alternatives aux véhicules thermiques qui dominent aujourd'hui largement.
Donc revoir nos déplacements, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le gouvernement, avec les institutions, doit mettre la main à la poche et faire des propositions, car une transition a forcément un coût et elle ne pourra pas avoir lieu si tout le monde n'y a pas accès. Néanmoins, de nombreuses alternatives existent d'ores et déjà, avec parfois certaines aides déjà déployées. Notons aussi que la barrière de l'autonomie des véhicules électriques sur de longs trajets ne semble plus d'actualité, les constructeurs ayant les moyens aujourd'hui de développer des véhicules assez conséquents pour de plus longues distances, et surtout quand on prend en compte le développement important du réseau de bornes de recharge dans le pays. Voilà pour cette petite réflexion sur notre rapport au déplacement et sur les alternatives déjà existantes. Mais vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus sur les nouvelles mobilités et les possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de notre série.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi, à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge, on a changé.
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
On a je te hais de tout mon corps, mais je
chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 5.
Bioéthanol, GPL ou hydrogène, ces solutions sont-elles efficaces ? Vous l'aurez compris, tout au long de nos épisodes, la solution la plus intéressante à l'avenir est de sortir complètement du moteur thermique. Oui, mais voilà, la fin de vente de véhicules à moteur thermique est prévue en Europe en 2035, avec l'espoir d'une sortie totale après 2050. Alors, comment engager cette transition et surtout, quelles solutions proposer à court et moyen terme ? Parmi ces solutions, l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique. 6 cylindres, turbocompresseur à l'arrivée d'air, filtre à particules, d'apparence ordinaire, la puissance mécanique de ce moteur se fera à partir d'hydrogène propre. C'est la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène qui va permettre de créer cette énergie. Une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et qui pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes, selon le chercheur sur la transition énergétique des transports, Aurélien Bigot.
En effet, il y a des risques qui vont être un des défis du développement de l'hydrogène. La particule d'hydrogène est très fine, du coup il va y avoir des risques de fuite dans les réservoirs, etc. Donc voilà, il y a des défis techniques qui vont nécessiter plutôt de le garder pour les modes de transport qui sont les plus difficiles à décarboner via d'autres types de solutions.
Le 20 janvier 2023, par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, entraînant une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté sécuritaire, l'hydrogène présenterait aussi quelques effets paradoxaux.
Il faut produire l'hydrogène. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergie fossile, donc d'un point de vue émission de CO2. Aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas vraiment vertueuse, n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue climatique. Et puis, du coup, va être plus coûteux aussi, parce que pour produire à l'avenir de l'hydrogène à partir d'un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène, eh bien ça va demander beaucoup d'électricité, plus que si jamais on utilise directement l'électricité dans un véhicule électrique avec une batterie. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une transformation énergétique à faire, on va perdre une partie de l'énergie. D'où, au final, le fait qu'il y a besoin de plus d'électricité sur l'ensemble de la chaîne pour faire rouler un véhicule à hydrogène. Soit on veut utiliser l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme aujourd'hui on peut utiliser du pétrole dans nos moteurs de voitures, par exemple. Et là, ces moteurs-là sont assez inefficaces, d'où le fait qu'il faut, sur l'ensemble de la chaîne, plus d'électricité. C'est un peu l'un des principaux inconvénients de la filière hydrogène comparée à l'électrique.
Un moteur qui doit être adapté et qui consomme plus d'énergie que ce qui est présenté. Bon, voici le constat pour l'hydrogène. Alors, quelle autre solution ? Peut-être modifier le réservoir pour adapter son ancien moteur thermique. La crise actuelle des carburants a remis au goût du jour le bioéthanol, par exemple. Au 20 janvier 2023, l'écart de prix est de 76 centimes entre un litre de superéthanol et un litre de sans-plomb 95-10. À la pompe, le 85 se trouve autour d'1,20€ le litre, ce qui fait de lui le carburant le moins cher. Quelle production permet d'atteindre ce prix ? Élément de réponse avec Nicolas Kurtsoglou du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
Alors aujourd'hui, donc c'est blé, betterave, maïs, c'est 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits qui sont utilisés pour faire du bioéthanol. Donc c'est une surface extrêmement faible pour produire beaucoup d'énergie, puisque en fait on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile, et on peut faire rouler plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc là, on a de l'alcool et de l'eau, et ensuite on fait une distillation, et là on obtient de l'éthanol pur à 99,99%. Cet éthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers et il est ajouté avec un peu d'essence pour faire soit du superéthanol E85 qui contient entre 60% et 85% d'éthanol, le reste c'est de l'essence, soit à 10% d'éthanol et 90% de sans-plomb pour faire du sans-plomb 95-E10. Le superéthanol E85 par rapport à l'essence sans-plomb 95-E10 divise par 2 les émissions de CO2. Le bioéthanol pur, on fait moins 77% de gaz à effet de serre. C'est bon pour la qualité de l'air, puisqu'on divise par 10 les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Et puis surtout pour l'indépendance énergétique. On peut produire notre carburant et notre énergie chez nous plutôt que d'importer du gazole russe. La France est le numéro 1 du nucléaire et c'est un peu moins connu. Elle est le numéro 1 du bioéthanol aussi en Europe.
L'année 2022 a été une année particulière, avec une crise du carburant exceptionnelle. Un regain d'activité a donc été constaté du côté du bioéthanol, lui qui semblait un peu mis de côté à la fin des années 2010. La consommation du bioéthanol s'est envolée de 83% l'an dernier, soit plus de 854 millions de litres sur 12 mois.
Il y a 12 ans, il y avait à peine 1% des stations qui proposaient le 85. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 1 sur 3, donc plus de 33%. Les volumes de superéthanol E85 ont été multipliés par plus de 10. Effectivement, l'écart de prix entre le E85 et l'essence sans-plomb 95-10 est aussi tout à fait significatif et fait que les gens ont envie de l'utiliser. Et tout simplement, il faut un peu de temps pour que la notoriété d'un produit se fasse. Plus le produit est présent sur les totems des stations-service, plus on le voit, plus on a envie de l'utiliser, puisqu'il y a un écart de prix substantiel.
Alors, comment bénéficier de ce biocarburant ? Eh bien, soit en achetant un véhicule qui avance au bioéthanol, soit en faisant la conversion vers un boîtier flex fuel pour votre voiture actuelle et qui fait la conversion au niveau de votre réservoir.
Sur les voitures essence d'occasion, c'est toutes les voitures qui sont immatriculées depuis 2001 et après. Et ensuite, il faut qu'elles soient compatibles E10, évidemment. Et donc, effectivement, vous allez en fait sur info85.fr et vous avez la liste des 4 fabricants de boîtiers E85. Et sur chacun, il y a la liste des garagistes qui sont les plus proches de votre domicile. Et donc, vous pouvez ensuite demander un devis à chacun.
Mais est-ce un carburant d'avenir ? Dans un tableau comparatif permettant de choisir l'énergie de votre futur automobile propre, l'Automobile Magazine a classé chaque énergie selon ses avantages et ses inconvénients. Le bioéthanol est présenté comme la solution optimale pour être plus performant et plus propre afin de rouler à la fois en ville, sur route et sur autoroute.
On a fait des petits calculs en passant seulement de 0,6% à 1% de la surface agricole utile. On passe de 12 millions d'hectolitres à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol. Et avec des voitures qui sont de plus en plus hybrides et hybrides rechargeables, donc qui consomment de moins en moins de litres de carburant liquide par 100 km, on peut faire tourner plus de 5 millions de voitures. Et donc c'est en gros 17% du parc automobile qui pourrait être abreuvé entre guillemets de superéthanol avec seulement 1% de la surface agricole utile. Il y a des solutions qui sont disponibles là et il y a un certain nombre d'industriels qui peuvent à la fois au niveau voiture, boîtier et distributeur de carburant proposer des solutions. Donc, sur les immatriculations de voitures neuves, on voit des fortes augmentations pour des voitures hybrides. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des hybrides essence pure. On peut espérer que ce soit des hybrides essence avec un boîtier éthanol ou des hybrides flex 85 d'origine. Bah, ça permet déjà de décarboner extrêmement fortement. Nous-mêmes, on a commandé une étude à l'IFPEN pour analyser en analyse de cycle de vie les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'une hybride rechargeable E85 est au même niveau et parfois un peu meilleure que la voiture électrique avec une batterie. Parce qu'aujourd'hui, la batterie a un impact CO2, une empreinte CO2.
Pourtant, tous les feux ne seraient pas au vert. Déjà, il faut signaler que l'E85, au même titre que les carburants classiques, va également subir les restrictions à venir sur les émissions de CO2. S'il est donc une solution, il n'y a rien d'optimal, selon le chercheur Aurélien Bigot.
La principale chose qui bloque, c'est le niveau de ressources disponibles de manière durable pour alimenter ces biocarburants. Si on voulait remplacer tout le pétrole par du biocarburant, soit il faudrait avoir une énorme partie des cultures qu'on utilise actuellement pour l'alimentation qui serait fléchée, disons, vers ces biocarburants, soit on n'a pas assez de ressources si on veut que ce soit produit à partir, disons, de déchets ou à partir de ressources qu'on ne peut pas valoriser par ailleurs. Donc c'est vraiment le principal. Pas le problème. Et actuellement, en termes de bilan carbone aussi, le fait d'avoir des biocarburants qui sont beaucoup en concurrence avec les usages alimentaires, donc par exemple pour le bioéthanol, ça va être produit beaucoup à partir de maïs, de blé, de betteraves, etc. Et bien en fait, ça va avoir des émissions quand même loin d'être négligeables. Et c'est pour ça qu'on doit réserver ce potentiel de biocarburant qui est assez limité, si on veut le produire à partir de déchets, plutôt vers des véhicules, vers des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative suffisamment prête, suffisamment efficace. Sur les prochaines années ou à plus long terme. Comme par exemple les poids lourds, l'électrique devrait être davantage complété par de l'hydrogène, potentiellement par des biocarburants ou par du biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse, donc là ça demande de changer les moteurs, c'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, qu'on peut obtenir à partir de résidus de plantes par exemple.
Et oui, car d'autres carburants alternatifs sont expérimentés. Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, qui est issu du pétrole et constitué principalement de butane et de propane. Le gaz naturel véhicule, ou GNV, est quant à lui essentiellement composé de méthane. Ce dernier peut à la fois provenir de gaz naturel ou de biométhane, un gaz vert renouvelable. Mais ce n'est pas la solution idéale. Déjà, parce que les pompes se font plus rares. Mais aussi parce que leur composition ne présente pas une alternative très décarbonée. Autre solution évoquée, l'huile de friture. Alors attention, seuls les moteurs diesel peuvent la supporter. Le législateur conseille un mélange de 30% d'huile usagée pour 70% de diesel et surtout pour des moteurs anciens. Difficile donc de voir ce carburant comme un carburant d'avenir, même si le Sénat a donné son feu vert à la législation de l'huile de friture usagée comme carburant pour des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité. McDonald's, par exemple, utilise sa propre huile pour ses camions de transport. Pour le chercheur Aurélien Bigot, le potentiel reste donc limité.
Le potentiel de production pour ces biocarburants qu'on appelle de seconde génération, donc à partir de déchets, typiquement l'huile de friture, au lieu de l'acheter, c'est très intéressant de la transformer en biocarburant et puis de pouvoir l'utiliser dans des véhicules. Mais on voit bien que l'huile de## a un potentiel qui reste assez limité. On va pas se mettre à tous manger des frites à longueur de journée exprès pour avoir plus d'huile de . Pour alimenter nos voitures, nos camions, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel qui peut être utilisé, mais il sera forcément limité. Et à ce moment-là, autant développer le potentiel qui existe, mais il ne faut pas compter dessus comme une solution de masse à l'avenir pour décarboner les transports.
Voilà donc pour ces quelques solutions alternatives. L'ADEME, agence de la transition énergétique, considère que l'électrification du parc automobile est un levier incontournable. Mais elle n'est pas suffisante pour que la transition soit pleinement efficace sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il faut donc passer par un mix. Et pourquoi pas imaginer, selon les utilisations et les distances parcourues, passer sur une hybride électrique bioéthanol. Une hybride qui réduirait encore plus nos émissions, plus qu'une hybride avec essence ou juste un véhicule essence ou diesel. Pour découvrir plus d'éléments autour des nouvelles mobilités et des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur 8FM pour écouter votre musique préférée.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please.
Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur 8FM.
Dans alibi.com 2, en